Chapitre 31. Percluse de douleur après une nuit passée sur le sol glacé, Jensen se réveilla aux premières lueurs de l'aube. À l'ouest, des étoiles brillaient encore dans le ciel. La jeune femme avait très mal dormi, mais il n'était pas question de s'attarder ici. En terrain découvert, on pouvait être repéré de très loin, et se faire surprendre par des ennemis n'était jamais une très bonne idée. Alors qu'elle s'étirait, Jensen aperçut la silhouette massive du haut plateau à l'horizon oriental. Au sommet, le palais du peuple, touché par les premiers rayons de soleil, brillait déjà et paraissait plus magnifique que jamais. En le contemplant, la jeune femme eut le cœur bizarrement serré. C'était son lieu de naissance et elle désirait tant se sentir chez elle quelque part. Mais sa terre natale ne lui promettait que des angoisses et de la souffrance. Conscient de n'être pas loin du tout du sorcier Hal, les deux jeunes gens remballèrent à la hâte leurs affaires et sellèrent leurs chevaux. S'asseoir sur du cuir glacé était une expérience très désagréable. Pour se réchauffer, Jensen posa une couverture sur ses genoux, mais l'effet ne fut pas très concluant. Autant par affection que pour se réchauffer les doigts, elle flatta l'encolure et les naseaux de Rookin. La chaleur corporelle de la jument préserverait du froid la seconde tourte, toujours emballée et protégée par la couverture. Jensen et Sébastien avancèrent à un train d'enfer. Pour ménager leur monture, ils marchèrent sur une partie du chemin mais ne marquèrent pratiquement pas de pause. En fin de journée, leurs efforts furent récompensés car ils atteignirent le bout des plaines d'Azrit. Leur plan consistait à disparaître dans les montagnes qui se dressaient à l'horizon occidental, et pour l'instant ils n'apercevaient pas l'ombre d'un poursuivant derrière eux. Peu avant le crépuscule, ils traversèrent une série de basses collines et de ravins envahis par une végétation grisâtre. On eût dit que les plaines d'Azrit, mortellement lasses d'être plates comme le dos de la main, avaient décidé de changer de configuration pour se distraire. En chemin, les chevaux broutèrent avidement les plantes pourtant ratatinées, même s'ils avaient un mort dans la bouche, un équipement qui pouvait les faire avaler de travers, Jensen n'eut pas le cœur de priver Rookin et Pete de ce dérisoire festin. Cela dit, elle crevait également de faim. Les deux tourtes avaient constitué un délicieux petit déjeuner, mais voilà beau temps qu'elle n'était plus qu'un souvenir. Peu avant la nuit, les deux fugitifs atteignirent les contreforts des montagnes et installèrent leur campement au pied d'un rocher qui les protégerait du vent. Au grand plaisir des chevaux, un peu d'herbe ratatinée poussait autour de ce refuge. Dès qu'on leur eut retiré leur harnachement, Rookin et Pete s'attaquèrent avec enthousiasme à cette manne inespérée. Tandis que Jensen déballait une partie de leurs affaires, Sébastien partit en exploration et revint avec une petite collecte de bois mort idéalement desséché. Après avoir débité les branches avec sa hache de guerre, il fit un feu au pied du rocher, dans un renfoncement où les flammes seraient difficiles à repérer. Voyant que sa compagne grelottait en attendant que le feu ait pris, il lui posa tendrement une couverture sur les épaules. Assise devant les flammes, son compagnon à ses côtés, la jeune femme entreprit de piquer des morceaux de porc fumé sur des bâtons qu'elle disposerait ensuite au-dessus du feu, en équilibre entre deux pierres.
« Tu as eu du mal à aller chez Althea ?» demanda Sébastien.
Préoccupé par les événements qui s'étaient enchaînés à une vitesse incroyable, Jensen n'avait rien raconté de ses mésaventures à Sébastien.
« J'ai dû traverser un marécage, » dit-elle, « mais j'y suis arrivé. »
Un résumé lapidaire. Mais elle n'avait aucune envie de gémir sur ses angoisses, sa bataille contre le serpent et sa quasi-noyade. Tout ça était du passé et elle avait survécu. Pendant ce temps, Sébastien croupissait dans une cellule en sachant qu'on pouvait venir le torturer ou le tuer à n'importe quel moment. Althea était à jamais prisonnière de son marécage. Décidément, il y avait des gens bien plus malheureux qu'elle.
Un marécage, ce ne devait pas être si mal que ça. En tout cas, il devait y faire moins froid qu'ailleurs.
Bon sang, je n'avais jamais connu ça de ma vie.
Tu veux dire qu'il fait toujours chaud chez toi, dans l'Ancien Monde?
Non, bien entendu. L'hiver est parfois rigoureux et il arrive même qu'il pleuve. Mais nous n'avons jamais de neige et de température glaciale comme dans le Nouveau Monde. Franchement, je ne sais pas comment vous faites pour y vivre.
Un hiver sans neige, ni température très basse? Jensen avait du mal à imaginer une chose pareille.
Et où irions-nous? Demanda-t-elle un peu agacée. « C'est notre pays ?»«
Tu as raison, oui. »
admit Sébastien, conscient d'avoir dit une bêtise.
« De toute façon, l'hiver touche à sa fin et le printemps sera là avant que tu aies le temps de t'en apercevoir. »«
J'espère bien. Je préférerais être dans cet endroit dont tu m'as parlé, la fournaise du gardien, que dans ce désert gelé.
L'endroit dont je t'ai parlé ?
Répéta Jensen troublé.
Je n'ai jamais mentionné un lieu nommé la fournaise du gardien ?
Bien sûr que si. Sébastien utilisa son épée comme un tisonnier et les flammes crépitèrent avec plus de vigueur. Au palais, dans le coin sombre, juste avant notre baiser.
Jensen tendit les mains pour les réchauffer au-dessus du feu. Je ne me souviens plus.
Mais si, tu m'as même dit qu'Althea avait vu les piliers de la création.
Jensen remit ses mains sous son manteau et dévisagea son compagnon.
Désolé, mais je n'ai jamais dit ça. Les piliers de la création dont m'a parlé la magicienne ne sont pas un lieu.
De quoi parlait-elle dans ce cas ?
Jensen éluda la question d'un geste impatient.
Nous bavardions, c'est tout. Rien d'important.
Elle écarta une mèche rousse de son front.
Pour toi, les piliers de la création sont un endroit ?
Je te l'ai déjà dit. La fournaise du gardien.
Baissant les yeux, Sébastien attisa de nouveau les flammes.
Que me racontes-tu là ?
Marmonna Jensen.
Les piliers, la fournaise ? Je n'y comprends plus rien.
Surpris par le ton de la jeune femme, Sébastien releva les yeux.
Tout ça tourne autour de la notion de chaleur.
Comme quand les gens disent « il fait aussi chaud que dans la fournaise du gardien ».
Eh bien, on appelle parfois ainsi un endroit dont le véritable nom est les piliers de la création.
Tu y as été ?
Tu veux rire ? Je ne connais personne qui se soit jamais aventuré jusque-là. Ce lieu terrorise les gens. Selon certaines personnes, il s'agit d'une province du gardien et seule la mort peut y exister, en admettant qu'elle existe.
Où est cet endroit ?
Sébastien désigna le sud avec son épée.
Au cœur d'une région désolée de l'ancien monde. Tu sais ce que c'est ? On devient vite superstitieux au sujet des lieux perdus au bout de tout.
Jensen regarda les flammes et tenta d'assimiler ces informations. Il y avait dans tout ça quelque chose qui semblait incohérent et qui l'inquiétait beaucoup.
Les piliers de la création. Pourquoi ce nom ?
Toujours surpris par le ton de Jensen, Sébastien haussa les épaules.
Comme je te l'ai dit, c'est un coin désertique où il fait atrocement chaud. Ce point explique le surnom du lieu. Quant à son vrai nom, on dit que...
Si personne n'y va jamais, comment peut-on dire quoi que ce soit ?
Au fil des siècles, quelques aventuriers se sont au moins approchés des piliers de la création. Et ils ont raconté ce qu'ils ont vu. Ces histoires se sont transmises de génération en génération, et c'est ainsi que nous savons qu'il s'agit d'un lieu très semblable à ces plaines.
Les plaines d'Azrit, tu veux dire ?
Oui, c'est un désert, comme les plaines d'Azrit, mais en beaucoup plus grand. Et il y fait perpétuellement chaud. Un temps sec et chaud mortel, à ce qu'on dit. Très peu de routes commerciales traversent ces terres. Sans les vêtements requis pour se protéger du soleil, un voyageur frirait tout simplement sur sa selle. Et bien entendu, sans une bonne réserve d'eau, on ne survit pas très longtemps.
Et c'est ça les piliers de la création ?
Non, là je décris seulement le territoire où il faut avancer pour y arriver. Au milieu de ce désert s'étend, paraît-il, une vallée où il fait encore plus chaud, comme dans la fournaise du gardien. C'est ça, les piliers de la création.
Mais pourquoi ce nom ?
Insista Jensen. Du bout du pied, Sébastien érigea autour du feu une couronne de sable qui retiendrait dans le foyer les braises qui s'écroulaient à présent les unes sur les autres.
D'après ce qu'on dit, au cœur de cette vallée encaissée dans un immense canyon, se dressent d'immenses colonnes de roches. C'est de ça que l'endroit tire son nom.
Jensen fit tourner les brochettes improvisées au-dessus des braises.
C'est assez logique. Des piliers de pierre.
J'ai vu des tours naturelles de ce genre dans d'autres lieux. De loin, on dirait des piles de pièces de monnaie disposées au hasard sur une table. Toujours selon les rumeurs, ces colonnes-là sont les plus extraordinaires du monde, comme si la Terre elle-même avait voulu rendre un fervent hommage au Créateur. Certaines personnes pensent que cet endroit est sacré. Pour elle, il s'agit de la forge du Créateur plutôt que de la fournaise du gardien. Mais cette façon de voir les choses est loin d'être majoritaire. En plus de la chaleur, nous avons d'autres raisons d'avoir peur de cet endroit. Pour mon peuple, c'est le théâtre de conflits surnaturels dont les mortels sont avisés de ne pas se mêler.
Le combat entre la création et la destruction ? Bref, entre la vie et la mort.
C'est ce qu'on dit, oui.
Des gens croient que ce lieu est le cadre d'une bataille entre la mort et le monde des vivants.
La mort ne cesse jamais de traquer les vivants. Selon les enseignements du frère Narev, c'est la perversité de l'humanité qui permet à l'ombre du gardien de s'étendre sur le monde. Si nous nous abandonnons au mal, le monde des vivants deviendra une proie facile pour le royaume des morts. Quand le gardien aura renversé les piliers de la création, toute vie cessera d'exister.
Ces mots glacèrent les sangs de Jensen comme si le gardien lui-même venait de refermer la main sur son cœur. Repensant à sa rencontre avec Althea, elle se souvint de ce que lui avait dit sa mère. Les magiciennes adoraient faire des mystères et elles ne disaient pratiquement jamais la vérité. Qu'avait en tête Althea lorsqu'elle avait traité Jensen de pilier de la création? C'était impossible à dire, mais le hasard ne jouait sûrement aucun rôle là-dedans. La magicienne avait voulu planter une graine dans l'esprit de son interlocutrice, c'était évident.
Qu'est-il arrivé avec Althea? Demanda soudain Sébastien. Pourquoi n'a-t-elle pas pu t'aider?
Tiré de sa sombre méditation, Jensen réfléchit à la réponse qu'elle devait donner. Pour gagner un peu de temps, elle se pencha sur les brochettes, vit qu'elles n'étaient pas tout à fait cuites et les tourna une nouvelle fois.
Elle m'a aidé par le passé quand j'étais très petite. Darkenral l'a découvert et sa punition a été terrible. Il a rendu Althea infirme et s'est arrangé pour qu'elle ne dispose plus de son pouvoir. Aujourd'hui, elle est incapable de jeter un sort pour me secourir.
Sans le savoir, sûrement, Darkenral a accompli l'œuvre du Créateur.
Que veux-tu dire?
L'ordre impérial veut éliminer la magie.
Selon le frère Narev, c'est la volonté du Créateur, parce que la magie est maléfique. Tu es d'accord avec cette vision des choses? Tu crois vraiment qu'un don accordé par le Créateur peut être une mauvaise chose?
Comment utilise-t-on la magie? Demanda Sébastien, la colère faisant briller son regard.
Sert-elle à aider les gens? Soutient-elle les enfants du Créateur?
Non,
elle défend des intérêts particuliers. Prends comme exemple la maison Râle. Depuis des millénaires, la magie lui permet d'imposer sa tyrannie à Dara.
Ce règne a-t-il été le moins du monde bénéfique au royaume et à sa population?
Non, au contraire, il a semé partout la torture et la mort.
Ce dernier argument fit mouche car Jensen ne pouvait rien lui opposer.
Il est donc possible, continua Sébastien, que le Créateur se soit servi de Darkenral pour libérer Althea de sa malédiction.
Posant le menton sur ses genoux, Jensen regarda la viande grésiller sur les braises. La magicienne s'était plainte auprès d'elle d'avoir seulement gardé des dons de voyance qui la faisaient souffrir encore plus. La mère de Jensen lui avait appris à dessiner une grâce. Elle lui avait aussi dit que le don était un présent du Créateur. Entre des mains compétentes, une grâce avait un authentique pouvoir, et même si Jensen ne détenait pas une étincelle de magie, le diagramme l'avait protégé en de multiples occasions. Les gens étaient capables du pire, elle le savait, mais penser que le don puisse être maléfique en soi lui déplaisait souverainement. Même si la magie était hors de sa portée, elle avait conscience de son potentiel bénéfique. Elle tenta d'aborder les choses sous un autre angle pour ébranler les certitudes de son compagnon.
« Tu m'as dit que des magiciennes, les sœurs de la lumière, combattaient aux côtés de Jagang. Tu as même ajouté que ces femmes pourraient m'aider. Si je comprends bien, elles contrôlent la magie, mais si celle-ci est maléfique... »«
Les sœurs servent notre cause, et elles utilisent la magie afin que le pouvoir disparaisse un jour totalement du monde. »«
C'est absurde! » Si vous pensez que la magie est une mauvaise chose, comment pouvez-vous collaborer avec des femmes qui la pratiquent?
Jensen prit une brochette et la tendit à Sébastien, qui piqua un morceau de viande bien cuite sur la pointe de son couteau. Au lieu de manger, il brandit l'arme sous le nez de Jensen.
Les gens s'entretuent avec des couteaux et des épées. Nous voulons également éliminer ces armes afin que la boucherie cesse.
Mais crois-tu que nous réussirons en prêchant la bonne parole?
Pour désarmer les gens, nous devrons recourir à la force, que ça nous plaise ou non. Le mal exerce sa fascination sur les peuples. Pour libérer l'humanité de l'horreur, nous devrons brandir des couteaux et des épées. Quand il n'y aura plus d'armes en circulation, la paix s'installera. Privés des moyens de se battre, les hommes se calmeront, et le gardien ne pourra plus s'insinuer dans leur cœur.
Jensen prit à son tour un morceau de viande et souffla dessus pour le refroidir un peu.
« Et vous avez recours à la magie dans le même esprit ?»«
Exactement.
dit Sébastien avant de commencer à manger. Il mâcha la viande, fit signe qu'elle était parfaite, avala et reprit son raisonnement.
Nous voulons nous débarrasser de la magie qui est un fléau. Mais pour ça, nous avons besoin d'elle, sinon nous risquerions d'être vaincus.
Jensen goûta à son tour la viande et la trouva également délicieuse. Manger chaud était un vrai bonheur après tant de repas froids.
Le frère Narev et l'empereur Jagang pensent aussi que les armes sont maléfiques.
Bien entendu, puisqu'elles servent exclusivement à tuer et à mutiler. Comme tu t'en doutes, nous n'avons rien contre les ustensiles de cuisine, mais toutes les autres lames sont maléfiques. Un jour, l'humanité sera débarrassée de ce fléau. Alors le meurtre et la mort ne seront plus que de lointains souvenirs, car leur règne sera révolu.
Dois-je comprendre que les soldats n'auront plus d'armes?
Non, non, il faudra bien qu'ils en portent pour défendre la liberté et la paix.
Dans ce cas, comment les simples citoyens se protégeront-ils?
Quels ennemis auront-ils à craindre? Seuls les soldats seront armés.
Si je n'avais pas porté un couteau,
rappela Jensen,
des soldats m'auraient tué comme ils ont tué ma mère.
Des agents du mal.
Nos militaires luttent pour le bien, ils défendent le peuple et n'ont aucune intention de le réduire en esclavage. Quand nous aurons vaincu les forces d'Aran, la paix régnera partout.
Mais même à ce moment-là, ne comprends-tu pas?
Coupa Sébastien.
Quand la magie n'existera plus, les armes ne seront plus nécessaires.
Les passions corrompues de l'humanité sont dangereuses, parce que les couteaux et les épées leur permettent de s'exprimer et de nuire.
Les soldats aussi ont des passions,
rappela Jensen.
Sébastien chassa l'objection d'un geste nonchalant.
Pas quand ils sont correctement entraînés et placés sous les ordres d'officiers compétents.
Jensen leva les yeux vers le firmament et sourit.
Le monde dont rêvait Sébastien était séduisant, ça ne faisait pas de doute. Mais il y avait une faiblesse dans son raisonnement.
Si la magie pouvait servir à des fins bénéfiques, elle n'était ni bonne ni mauvaise, mais parfaitement neutre, comme tous les outils.
L'important, c'était l'intention de celui qui la contrôlait, comme avec les couteaux et les épées.
Au lieu de polémiquer, Jensen préféra poser une nouvelle question.
À quoi ressemblerait un univers sans magie?
Sébastien eut un grand sourire.
Les gens y seraient égaux. Oui, plus personne n'aurait d'avantage injuste.
Il prit un autre morceau de viande.
Les gens travailleraient ensemble parce qu'ils auraient des objectifs communs.
Plus personne ne pourrait dominer des innocents grâce à un pouvoir surnaturel.
Par exemple, tu vivrais librement sans que le seigneur Ral te persécute avec sa magie.
Selon Althea, Richard Ral était né avec des pouvoirs tels qu'on n'en avait jamais vu depuis des milliers d'années.
De fait, il était parvenu à approcher davantage de Jensen que leur sinistre père.
N'était-ce pas lui qui avait envoyé les assassins de sa mère?
Pourtant, quelque chose ne collait pas.
Jensen était un trou dans le monde pour son demi-frère. Il ne pouvait donc pas utiliser ses pouvoirs pour la traquer.
Tu ne seras pas libre tant que tu n'auras pas éliminé le seigneur Ral, conclut Sébastien.
Et pourquoi moi? Avec tous les ennemis qu'il a, pourquoi devrais-je être celle qui l'assassinera?
En posant la question, Jensen entrevit son abominable réponse.
« Eh bien, fit Sébastien, je ne voulais pas vraiment dire ça. En réalité, tu ne seras pas libre tant que quelqu'un n'aura pas éliminé le seigneur Ral, peu importe qui. »
Sébastien tendit la main et s'empara d'une outre d'eau.
Jensen le regarda boire, puis elle posa une nouvelle question afin de changer de sujet.
« Le capitaine Lerner a dit que le seigneur Ral est marié. »
« À une inquisitrice, » confirma Sébastien.
« S'il cherchait une compagne à sa hauteur, il l'a trouvée, ça ne fait pas de doute. »«
Tu sais des choses sur cette femme ?»«
Ce que j'ai entendu dire par l'empereur. Je peux te le répéter si ça t'intéresse. »
Jensen fit signe qu'elle était prête à écouter, puis elle prit un nouveau morceau de viande et le savoura.
« La barrière qui séparait l'ancien monde et le nouveau monde » a tenu pendant des milliers d'années jusqu'à ce que Richard Ral la détruise afin de conquérir mon pays.
Pas très longtemps avant la naissance de ta mère, je crois, le Nouveau Monde a été divisé en trois pays. Terre d'Ouest est à l'ouest, comme son nom l'indique, et Dara est à l'est. Après avoir tué son père et pris le pouvoir, Richard Ral a détruit les frontières qui séparaient les trois pays. Les contrées du milieu s'étendent entre Terre d'Ouest et Dara.
Les inquisitrices vivaient dans ce royaume où la magie dominait tout. En fait, c'est la mère inquisitrice qui règne sur les contrées. D'après l'empereur Jagang, cette femme est jeune, environ mon âge, mais ça ne l'empêche pas d'être intelligente et dangereuse, mortellement dangereuse même.
Comme pour souligner ses propos angoissants, Sébastien marqua un temps d'arrêt et Jensen en profita pour poser une question.
Sais-tu ce que c'est, une inquisitrice? Que signifie ce nom?
Sans lâcher l'outre, Sébastien passa les bras autour de ses genoux.
Eh bien, je n'ai pas beaucoup d'informations, à part que ces femmes ont un pouvoir terrifiant. Par exemple, la mère inquisitrice peut carboniser le cerveau d'un homme par un simple contact. Le malheureux devient alors son esclave, une sorte de marionnette dont elle tire les fils.
Jensen eut l'estomac révulsé par cette seule idée. Quelle infamie!
Et ses victimes lui obéissent au doigt et à l'œil? Tout ça parce qu'elle les a touchés?
Sébastien tendit l'outre à son ami et haussa les épaules.
N'oublie pas qu'elle contrôle une magie maléfique. L'empereur Jagang m'a parlé du pouvoir de cette femme. Quand elle ordonne à un de ses esclaves de mourir, il cesse immédiatement de vivre.
Tu veux dire qu'il se suicide devant ses yeux?
Non, il tomberait de mort, parce qu'elle lui en a donné l'ordre. Son cœur cesse de battre ou un truc comme ça. Une mort subite sans aucune explication.
Bouleversé par ces évocations, Jensen posa l'outre près d'elle et s'enroula plus étroitement dans sa couverture. Morte de fatigue, elle n'avait plus tellement envie ce soir d'apprendre de nouvelles choses au sujet du seigneur Rall, car chaque information était pire que la précédente. Après le repas, une fois les chevaux bouchonnés, Jensen s'étendit et se blottit sous sa couverture et son manteau. Elle aurait voulu s'endormir, se réveiller fraîche et dispose, et découvrir que toute cette affaire n'était qu'un cauchemar, ou ne plus se réveiller du tout afin de n'avoir pas à affronter l'avenir. Puisqu'ils avaient un feu, Sébastien ne la réchauffa pas en dormant contre elle cette nuit-là. Sa présence rassurante lui manquant, Jensen resta un long moment éveillé, les yeux rivés sur les flammes. Alors que son ami s'était endormi comme une masse, elle dut se battre pied à pied contre ses angoisses. Qu'allait-elle devenir? Sa mère était morte, la laissant sans foyer ni famille. Cette femme avait toujours été tout pour elle. La regardait-elle à présent de là où elle était, en compagnie des esprits du bien? Avait-elle enfin trouvé la paix et une forme de bonheur? Jensen pensa à Althea et son cœur se serra. La magicienne vivait un calvaire qui ne s'achèverait qu'avec sa mort. Tous les gens qui tentaient d'aider Jensen le payaient au prix fort. Sa mère était morte pour expier le crime de l'avoir mise au monde, l'Athéa avait été tuée par les monstres qui la traquaient, et Althea était emprisonnée dans un marécage parce qu'elle avait tenté de protéger une enfant innocente. Il y avait aussi Friedrich, privé des plus grandes joies de la vie à cause de Jensen. La jeune femme se souvint du baiser de Sébastien. Althea et Friedrich n'avaient plus la possibilité de vivre leur passion. Jensen, elle, avait le sentiment qu'il n'y aurait jamais plus rien au-delà de ce baiser. Elle avait entrevu le bonheur, mais la porte de sa prison s'était refermée sur elle. Comme le marécage d'Althea, sa malédiction était une invention du seigneur Rall, qui ne manquait jamais d'imagination quand il s'agissait de torturer les gens. Qu'avait donc dit Sébastien? Elle ne serait jamais libre tant qu'elle n'aurait pas éliminé le seigneur Rall. Jensen regarda l'homme endormi qui était entré si soudainement dans sa vie. Sans lui, elle n'aurait plus été de ce monde. Mais comment aurait-elle pu imaginer, à l'instant de leur rencontre, qu'il lui donnerait un jour son premier baiser? Les cheveux blancs du dormeur prenaient des reflets argentés à la lueur des flammes. Jensen aimait tant contempler le beau visage de son ami. Mais comment évoluerait leur relation? Elle ignorait la réponse à cette question. Que signifiait vraiment ce baiser et où les conduirait-il s'il devait vraiment les conduire quelque part? Voulait-elle aller jusqu'au bout de ce chemin? Et Sébastien le désirait-il? Elle n'en était pas sûre, et elle ne savait pas si cela la rassurait ou l'inquiétait.